La question de Ephraim.
Bonjour, j'aimerais savoir c'est quoi le but d'un sacrifice. Comment est-ce qu'avec un sacrifice on peut expier nos fautes?
Tu parles d'un sacrifice de bête à l'époque du temple. C'est cela. Alors le Ramban, Armani, dit que c'est un des grands secrets de la Torah. Bon, ben, c'est un peu de. Un peu. Parce que c'est certain que l'essentiel nous manque. Le premier homme avant le péché originel est à un niveau extrêmement haut. C'est marqué que sa tête était déjà dans la divinité. Il devait encore attendre jusqu'à l'entrée du Shabbat, sans faire de péché, pour que le corps entier rentre entièrement dans la divinité. Et là, on s'unissait, je dis on, parce que nous sommes les âmes du premier homme. On s'unissait avec la divinité pour le kiff éternel. Bon, il a péché. Et à ce moment, il y a eu une baisse terrible. Toutes les parties d'âme du premier homme sont tombées très très bas, on s'appelle dans la mort. Et ça crée le mal. Comme j'ai expliqué souvent, la mort, par définition, elle est morte. Donc elle n'existe pas, c'est du non-être. L'âme, c'est l'être. L'âme, c'est une énergie divine, d'être. Dieu, on l'appelle celui qui était et sera. C'est l'être suprême. Alors quand tu prends une fraction d'être suprême, parce que l'âme c'est une partie de Dieu, quand tu prends en tout cas c'est une énergie divine, quand tu prends l'énergie divine et tu la mets dans du non-être, ça te fait Frankenstein, ça fait Dracula, ça te fait des morts vivants, ça fait des démons, des Ahmadinejad, des Hitler, des Saddam Hussein, des Haman et des pharaons. Le mal. Maintenant, non seulement ça crée le mal, mais ça fait aussi que ça crée un monde matériel. Parce que le premier homme était fait de lumière. Ça crée un monde beaucoup plus grossier, qui est en fait donc de la mort mêlée à de la vie. Le seul job de l'humanité, dès ce moment, était de réparer ce péché. Parce que l'humanité, ce sont en fait les âmes du premier homme. L'humanité, non seulement n'a pas réparé, mais est allée d'échec en échec. La génération du petit-fils du premier homme, Enoch, a commencé à faire la Avodah Zara, l'idolâtrie. Après, il y a eu le déluge. Après, il y a eu la tour de Babel, Sodome et Gomorre, la cata. Vient un homme, qui s'appelle Avraham Avinu, qui lui va brandir le drapeau de Dieu. Et Dieu décide, propose, disons, son projet aux nations. Déjà 2000 ans que ce projet était proposé, il a vu que personne n'y arrivait. Donc il choisit Abraham et sa descendance pour qu'eux fassent essentiel de ce tikkun, de ce job, de faire ressortir toutes les étincelles de sainteté, de vie, de faire sortir de la mort. Parce que lorsque tu ressors des étincelles de vie de la mort, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste un corps mort sans vie. La mort n'existe plus. Tout ça pour arriver à l'état antécédent du péché originel. Am Israël, par la souffrance de l'esclavage en Égypte, par l'acceptation de faire certaines choses qu'ils avaient en terre d'Égypte, plus en sortant d'Égypte, par enfin le grand dévoilement de lumière qu'il y a eu au don de la Torah au Mont Sinaï, sont arrivés à cet état-là. Au don du Mont Sinaï, don de la Torah au Mont Sinaï, l'humanité est arrivée au niveau du premier homme avant le péché originel. Mais comme le mal, avant le péché originel, le serpent avait quand même un certain impact, là aussi, il garde un certain impact, et il vient 40 jours plus tard, et il fait repêcher le peuple d'Israël, ils font le veau d'or. Et on est de nouveau, tout retombe, tout se casse, et on doit tout recommencer à zéro. Et depuis ce jour-là, nous, âme Israël, et l'humanité dans les 7 lois noachides, mais âme Israël, spécialement avec 613 mitzvot qu'ils doivent faire, ont comme seul job de faire remonter les étincelles de sainteté vers leur source. C'est le travail que nous faisons par l'étude de Torah, le travail que nous faisons par les mitzvot, le travail que nous faisons par la tshuva, tashuv, hei, hei, c'est la dernière lettre du nom de Dieu. C'est une partie divine qui est tombée dans le mal, d'accord? Tashuv, hei, on fait remonter. Une femme qui est nida, par exemple, elle a une certaine sainteté qui la quitte. Il y a de la mort. C'est quoi de la mort? C'est quoi la mort? La mort, c'est chaque fois que tu as un potentiel de vie qui est non utilisé, d'accord? C'est raté. Une femme, lorsqu'elle est en possibilité d'amener un enfant, elle a un potentiel de vie. Lorsque, alors ça, sa menstruation, ça veut dire que cette potentialité n'a pas été utilisée, donc il y a de la mort. Donc elle est moins en état de sainteté. On appelle ça Nida. Nida, Nad, Hei. Le Hei est parti. Quand elle va au Mikvé, c'est 3-4 lettres. Mem, Kuf, Vav, Hei. Mem, c'est Maim. Kav, c'est une voix. Hei. Par l'eau, elle se rebranche au Hei. Parce que la relation avec une femme qui est Nida est très grave parce qu'il manque une partie de Dieu et ça fait des courts-circuitages très graves au niveau de notre Neshama. Par le Mikvé, et seulement par le Mikvé, pas par la baignoire, ni par la piscine, elle peut réitérer son statut de sainteté qu'elle avait auparavant. Donc c'est toujours cette histoire de sainteté qu'on fait remonter. Par la souffrance aussi, on fait cela, et par le fait de manger. Quand on mange, comme c'est écrit le Ben Yishraï, il y a deux grandes pensées qu'il faut avoir. Une pensée que par le fait de manger, on fait un birour, on fait une sélection entre l'étincelle de sainteté et les parties mortes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la digestion quand on mange? Au niveau de la digestion, il y a une séparation entre tout ce qui est utilisable comme énergie passe dans le sang, et le reste, les déchets, passe aux toilettes. D'accord? D'ailleurs, ce résidu qui reste, les excréments, sont extrêmement impurs. Il est interdit de la Torah, même de penser, je ne dis pas même parler à plus forte raison, mais même penser des paroles de sainteté à côté d'excréments. Même si maintenant, tu es par exemple ici à l'entrée de la yeshiva, tu as un excrément qui est à 1 km. Tu sens rien, tu vois à peine, mais il est là en face de toi, d'accord, enfin, il faut quand même le voir, j'imagine, c'est interdit. Alors, je crois que si c'est pas clair, si c'est d'oraita ou de rabanan, en tout cas, c'est interdit. Pourquoi? Parce que la pensée de Torah, c'est la sainteté en elle-même. Maintenant, l'excrément, c'est le résidu, on a enlevé de lui tout ce qu'il y avait comme puissance sainte, c'est le résidu impur. Quand tu penses maintenant, parole de Torah, quelque part, lui, il happe cela de nouveau, tu fais passer des étincelles de sainteté dans l'impureté. Le boulot est tout à refaire. De même que nous faisons une séparation, une sélection au niveau digestif physique entre ce qui est énergétique et résidu, de même au niveau spirituel. Il y a une partie, quand on mange, il y a une partie spirituelle. Tout ce qui vient en énergie maintenant repart à la source. Et l'autre partie reste dans la mort. C'est pour ça qu'il est très important de manger Shabbat beaucoup. Pourquoi ? Pas trop non plus, mais manger plus, parce que Shabbat, vu qu'on a un supplément d'âme, on a une sainteté supplémentaire qui nous permet de faire cette sélection de façon beaucoup plus puissante que les autres jours. Spécialement en mangeant du poisson. Pourquoi? Parce que le poisson, c'est le seul animal qui est, on va dire, au niveau de sa concentration. En passant, c'est la raison de la cacheroute. Pourquoi est-ce qu'un animal est cachère, un autre n'est pas cachère? Parce que lorsqu'on mange, on fait une sélection. On reprend les étincelles de sainteté. Maintenant, il faut que l'animal soit suffisamment... a une concentration suffisamment grande de sainteté pour peu d'impureté pour qu'on arrive à faire le tikkun, la réparation, et pas que nous soyons au contraire impurifiés par un animal qui aurait beaucoup d'étincelles impures, beaucoup de forces impures pour peu d'étincelles de sainteté. Si on l'ingurgite, on n'arrive pas à faire le tikkun, la réparation, au contraire, ce résidu d'impureté reste en nous et nous rend bouchés, d'accord? Il nous rend bouchés à la perception de Dieu. Donc, les animaux cachers ont beaucoup de sainteté pour peu d'impureté, et les non-cachers, c'est le contraire. L'animal qui est le plus pur, c'est le poisson. Pourquoi? Le poisson cachère, attention. Il y a beaucoup de poissons non-cachers. Et dernièrement, il s'avère qu'il y a beaucoup de poissons avec des vers, pas cachers. Un ver qui se trouve dans la chair du poisson est permis. Un ver qui se trouve dans les organes intérieurs, mais pas dans la chair, est interdit parce qu'on considère qu'il vient de l'extérieur. Il est dans les poumons, il est dans les branches, dans les intestins, dans l'estomac, etc. Ça vient de l'extérieur. Là, c'est interdit la consommation. Dernièrement, les spécialistes ont remarqué qu'il y avait un certain, j'ai oublié son nom, un nom compliqué, d'accord, un certain, une sorte de ver de mer, d'accord, que bien qu'il était ingurgité que dans les intestins du poisson, une fois que le poisson est mort, il passe dans la chair. Et dès lors, on peut acheter maintenant du poisson que dans les poissonneries cachères, dans lesquelles ils vérifient exactement d'où est la provenance. Est-ce que ça vient d'une mer qui est infectée, pas infectée, d'une piscine qui est infectée, pas infectée, ils vérifient, ils regardent, etc. Il faut faire attention, parce qu'un ver de terre, c'est que 4 fois manger du porc en gravité. Un ver de mer, d'accord? Un ver de terre, c'est 5 fois. Un ver volant, tout ce qui est moustique, voilà, c'est 6 fois. Si je me souviens bien, c'est comme ça, d'accord? la gravité, c'est comme une fois mangé du porc, fois 4, fois 5 ou fois 6. Ça, c'est si le poisson est cachère. Beaucoup de poissons ne sont pas cachères. L'innocente boîte de thon. D'accord. Sans parler du problème de Bichoul Goïm, que c'est cuisiné par des Goïm, il y a un problème là-dedans. Mais est-ce que c'est du thon? Le nom thon, d'accord, revient sur environ 94 sortes de poissons, dont 7 uniquement sont cachères. Donc, de fortes chances que lorsque une boîte de thon, c'est pas du thon, c'est de l'espadon, c'est du à peu près thon, c'est une variante, d'accord, qui n'a pas d'écailles, qui est non cachère au même titre que le porc. Donc, le poisson cachère a l'avantage qu'il se mange tel qu'il est. Le seul animal qui n'a pas besoin de cachérisation supplémentaire, parce qu'il a, tellement d'étincelles pures par rapport à tellement peu d'étincelles impures, qu'on peut le manger tel qu'il est. Pas besoin de l'égorger, pas besoin de faire une salaison, d'accord? Il n'y a pas de problème. Donc c'est bien de manger du poisson Shabbat, vu qu'on a une capacité de réparation de l'aliment beaucoup plus grande, et vu que c'est le poisson est un aliment qui se répare facilement, donc c'est bien de manger du poisson aux 3 repas de Shabbat. Donc j'explique maintenant qu'il y avait un tikkun à faire de faire monter les étincelles. J'expliquais aussi qu'on faisait cela en mangeant. Et il est marqué que notre table est un autel. À l'époque du temple, c'était l'autel au temple qui expiait nos fautes. Aujourd'hui, c'est notre table. Pourquoi? Parce que le même job qu'on faisait avec les sacrifices au temple, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à table. C'est pour ça qu'il est marqué que celui qui ne dit pas les divrei Torah, les paroles de Torah sur la table, ne serait-ce au moins un mot, une phrase. Alors c'est comme s'il mange zivrei metim. Regardez comme c'est intéressant les paroles de sagesse. Zivrei sont des sacrifices de mort. C'est quoi un sacrifice de mort? C'est quoi un sacrifice de mort? Ça ne veut rien dire. Alors les commentateurs disent c'est un sacrifice d'Avodazara. Alors pourquoi tu ne dis pas sacrifice d'Avodazara? Parce qu'on dit exactement c'est mort. C'est-à-dire, toi tu veux faire sortir la vie de la mort. En mangeant maintenant, tu fais sortir la vie. Par les paroles de Torah, tu fais sortir aussi. C'est important quand tu parles de Torah, ça fait partie du tikkun de réparation. Si tu ne dis pas, tu laisses la vie dans la mort. Donc tu as fait un sacrifice, tu as fait monter, tu as fait une sorte de séparation entre les deux, qui reste dans la mort. Et ça va où? Au côté négatif, Avodah Zarah. Idolâtrice, le côté négatif, le côté de la mort. Donc nécessaire de parler des paroles de Torah pendant le repas. Le sacrifice, c'est exactement la même chose. Le veau d'or, c'est exactement la chose qui a fait donc l'éparpillement de toutes les étincelles de sainteté. Il faudrait qu'on va sacrifier des veaux, des bœufs, toutes les mêmes sortes d'animaux, dont le nom d'ailleurs en hébreu est par ou para, d'accord, vache ou bœuf. Par ben bakar, c'est quoi par? Par, ce sont deux lettres, P, resh. Peresh, ça signifie, j'ai fait un cours, je n'aurai pas le temps de le faire maintenant, peut-être faire un peu rapidement, je ne sais pas. Bon. Peresh, un cours sur la langue sainte. Chaque lettre en hébreu a un sens. Et tous les mots en hébreu sont des combinaisons de ces sens des lettres. Donc sans avoir appris l'hébreu, quelqu'un qui va apprendre le sens des lettres hébraïques, dans leur profondeur, et c'est profond, qui va connaître les lois d'agencement, des points aussi, pour en voyant un mot en hébreu, connaître le sens du mot sans avoir jamais appris sa signification, parce que c'est une conjonction de 3 sens, ou de 2 sens, ça dépend le nombre de lettres qu'il y a dans chaque verbe en hébreu, a une racine de 3, mais des fois c'est des racines de 2. Par, c'est 2 lettres, P, Resh. P, c'est une bouche, comme son nom l'indique. P, c'est quoi une bouche? C'est un passage d'intérieur à extérieur. Il y a un autre argument pour savoir le sens de la lettre. Une autre indication, c'est la première fois où cette lettre apparaît en tête de mot dans la Torah. Alors maintenant, j'ai un trou de mémoire. C'est où qu'apparaît la première fois dans la Torah la lettre P en tête de mot? Quelqu'un a une idée? Peut se rappeler? Pénétéum. Péné, très bien. Péné, la face. C'est comme la bouche. C'est quoi la face? La face, c'est ce qui exprime l'intérieur. Péné, la face de... Mais c'est panim, le mot. Panim, qui est comme mot pnim. Pnim, c'est intérieur, parce que l'intérieur se voit sur la face. Le passage d'intérieur-extérieur se fait sur la face. La parole, c'est l'expression de ce que j'ai à l'intérieur. Passage d'intérieur à extérieur. Resh, c'est quoi? Que c'est le mot resh? Roche, la tête. Un yud, resh. C'est la tête. Pas vrai, nous verrons le mot resh en tête de mot dans la Torah. Be, reshit. Parce que be, c'est un préfixe. Reshit, reshit, premier. Premier. Le premier d'une colonne. C'est le premier, mais c'est aussi la tête. Resh, d'accord? La tête d'une colonne, c'est le premier. C'est celui qui dirige, c'est lui qui est aussi la tête d'une entreprise. C'est lui qui va diriger, qui va, quelque part, une entreprise, d'accord? Ou un roi, le premier d'un état, de n'importe quelle association d'éléments épars. Il est là pour unifier le tout, diriger. Si tu as un état où tu as plusieurs ministères, mais tu n'as pas un roi qui va gérer ça, alors ça part en cacahuète. Parce que chaque ministère fait un peu ce qu'il veut. Il faut que tu aies ici la tête qui va gérer tout. Le PDG d'une entreprise, idem, tes employés, ils sont tous très très performants, mais s'il n'y a pas quelqu'un ici qui m'attend pour gérer tout ensemble, ça part en cacahuète. Donc la tête, elle est la première, mais aussi la directrice, et elle unit tout ensemble. Maintenant, si on dit Peresh, ça signifie sortir à l'extérieur d'une chose unie. Casser l'union. Casser l'union. Peresh signifie casser l'union. Regardez ce qui s'est passé. L'union, l'unique, c'est Dieu. Quand il y a eu le veau d'or, ou quand il y a eu le péché originel, il y a eu une cassure de cela, et toutes les étincelles de sainteté sont tombées très bas, éparpillées dans le monde entier. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans quelques cours, le job de Am Israël, c'est quoi? C'est d'aller dans tous les pays du monde pour en retirer par l'étude de Torah, ou par la souffrance, par le fait de manger simplement aussi, c'est un grand tikkun, en retirer toutes les étincelles de sainteté, tout ce qui est éparpillé dans le monde entier. C'est pour ça que le peuple d'Israël a été éparpillé dans le monde entier, et aussi qu'il a expulsé d'un endroit à l'autre pour faire ce ratissage d'étincelles de sainteté.
Mais la vache, ça s'appelait pas avant.
Alors, hein, tu me poses une très bonne question. Tu dis que le par, c'était avant le veau d'or, il s'appelait déjà en tant que par. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un veau d'or et pas une grenouille d'or?
C'est
Egel. Egel, c'est le fils, d'accord. Mais Chazal disent que vienne maintenant la mère du fils. Et... Okay, c'est la même chose, c'est la même chose. D'accord, pourquoi? Parce que c'est en lui qui avait le plus grand potentiel, justement, d'éparpillement, et quand on fait maintenant un sacrifice, au contraire, de faire remonter. Quand on fait un sacrifice, on fait un korban. Korban, c'est quoi les trois premières lettres? Le nun de fin, c'est une terminaison, d'accord? C'est les karev, kouf, resh, bet. C'est quoi? Karov, rapprocher. Tu vas rapprocher par les étincelles sainteté qui sont parties loin, tu vas maintenant, par le fait de sacrifier, tu les ramènes à leur source. Quand on faisait un sacrifice, alors c'est vrai que pour nous, ça peut avoir l'air bestial, une pauvre vache qui n'a rien fait à personne, elle fait meumeu depuis qu'elle est petite, et on la sacrifie maintenant bêtement, même pas qu'on la mange, d'accord, on la brûle, etc. Ça dépend quel sacrifice, on a des parties qu'on mange, etc. En cela, il y avait un travail, un service, d'accord, de ratissage d'étincelles de sainteté énorme pour les faire remonter à la source. À un point tel, donc il fallait amener deux sacrifices quotidiens, un le matin et un l'après-midi, et ça suffisait, c'est marqué que ça suffisait à expier toutes les fautes du peuple d'Israël. Le matin, expier les fautes de la nuit, et celui de l'après-midi, expier les fautes du jour. Tellement ça faisait d'effet.
C'est pas plus simple d'être un bon juif, et puis de respecter son prochain, et d'étudier la Torah, plutôt que de... Vous avez une bête que Hachem a créée et puis qui nous demande de respecter toute la journée.
Regarde, nous ne savons pas l'action que a chaque chose dans le monde supérieur. Tu peux me dire, je vais transformer ta question maintenant autrement. Je peux transformer et dire comme ça, qu'est-ce que Dieu en a à faire maintenant que je porte un tefillin sur la tête? C'est quoi le tefillin? C'est quoi la mitzvah? C'est marqué que quand on porte un tefillin, il faut penser que dans les tefillin se trouve inscrit l'unicité de Dieu, Shema Yisrael Elokeinu Hashem Echad. Et le fait que Dieu nous a sortis d'Égypte avec des miracles qui montrent qu'il est le maître incontesté sur les forces spirituelles et les forces matérielles. Et qu'elles sont toutes subordonnées à lui, et je subordonne mon âme, qui se trouve dans la tête, je subordonne à Dieu. Ok? Alors pourquoi porter un tefillin? C'est combien ça coûte un bon tefillin? 400, 500, 800 euros? D'accord? Ça doit être fait de façon minutieuse, carré, complet. On tolère 1 à 2% d'erreur dans le carré. Carré total! Une erreur dans le texte, une erreur de rien, il vaut plus rien ton tefillin. Pensons à Dieu, mettons un petit coucou ici, coucou, coucou, Dieu existe, je mets ici, je prends un autocollant, subordonné à Dieu, je mets ici, là, sur mon front, encore mieux, toute la journée, subordonné. Pourquoi un tefillin? Nous ne savons pas exactement comment faire pour que la sainteté se pose sur les organes matériels, et agisse. Mais Dieu, dans sa Torah, le dévoile. En faisant certains actes matériels, on fait une action qui a une portée dans l'éternité. À Sukkot, on va habiter dans une cabane. C'est une mitzvah énorme. Les 7, ou en les 3G, 8 jours de Sukkot. Avant, ça sert à rien. Après, ça sert à rien. La mitzvah est énorme, on s'y prépare des mois à l'avance. Pessah ! C'est quoi la grande mitzvah de Pessah ? Manger de la matzah. C'est quoi la matzah ? Un peu de farine et de l'eau non fermentée. Mangeant avant Pessah, c'est la mitzvah de maigrir, c'est peut-être tout. D'accord ? Après, idem, diète. À Pessah, ça devient un truc énorme. C'est-à-dire que Dieu, qui a donné la Torah, nous dit maintenant quel acte nous allons faire dans la matière, qui aura quel impact au niveau spirituel. Au niveau de la vache aussi, je peux prendre maintenant que vous avez un chien et l'amener au temple, ou le tuer comme ça, t'as rien fait. T'es un sadique. Ou un crétin, d'accord. Regarde, moi je viens maintenant, voilà, je vais ici, je sais pas moi, je vais devant vous, pleine journée, je prends une branche de palmier, je prends une sorte de citron un peu bizarre, un peu biscornu, cèdre, d'accord, quelques branches de myrte, quelques branches de sol, je commence comme... Oh, si, ah... Il est marbré. Non mais c'est... À l'asile de fous. Et à Sukkot, on te dit, quand tu fais ça, tu sais qu'est-ce que tu fais ? Tu prends les quatre lettres du nom de Dieu et tu es en train maintenant de faire une action. Rabbi David Abu Hatzera. À Sukkot, il a demandé, c'est où l'Iran ? C'est où l'Iran ? Il m'a dit, par là. Il a fait comme ça. Oh, shit ! C'est bon. C'est bon. C'est une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un morceau de citron avec un peu un palmier comme ça. C'est... Pourquoi pas une banane ? Plus joli, coûte moins cher qu'un cèdre, d'accord ? Ou une orange, ça fait un peu israélien, pourquoi pas Jaffa ? Non, mon cher ami, ça marche comme ça. Dieu, il nous a dit quel acte, Dieu qui connaît maintenant la valeur spirituelle de chaque objet, il a un correspondant spirituel, il sait ce que c'est. L'objet en lui-même, c'est rien, mais c'est un véhicule d'une réalité spirituelle, sinon elle ne serait pas. Il ne peut pas y avoir une chose dans le monde réelle sans qu'elle ait une réalité spirituelle. Ce que la physique dit aujourd'hui, tout est énergie. Mais tu ne connais pas qui, quoi, comment fonctionne cette énergie. Dieu, oui, il te dit, voilà, tu vas faire ça, ça va agir comme ça. Dieu a dit, tu amèneras une vache au temple, à cet endroit, par l'extérieur, celui qui égorge une vache à l'extérieur. Aujourd'hui, celui qui fait un sacrifice à l'extérieur, c'est carette. On n'a plus de bêtes aujourd'hui qu'on peut égorger en tant que sacrifice. Il y en a une, c'est quoi ? Les aînés. Le Bechor. Le Bechor, il est saint dès la naissance. Quand j'étais jeune, avec dont le Rabbein Chaim, d'accord, on était trois, on a acheté un mouton. On voulait faire la mitzvah de mitzvah qu'on égorge un animal, et une mitzvah, chaque juif, de donner au Kohen trois parties de la bête. La langue avec les joues, l'estomac, un des estomacs, parce qu'il y en a plusieurs, et le bras droit. De l'animal. C'est mis ça de la Torah. Aujourd'hui, personne ne l'a fait, parce que qu'est-ce qu'ils font pour éviter de la faire ? Ils font une shoot-foot, une association avec un goy, avec un non-juif, et dès lors, la bête est désengagée de l'obligation de donner ses dons. Mais si quelqu'un achète un mouton pour lui, il le fait comme ça, un méchoui, il doit donner au Cohen. Nous, on s'est dit, on va acheter exprès, on va faire comme ça. Bon, on ne s'est pas égorgé, on a amené un des plus grands égorgeurs du Badat, ici, qui est venu, une sorte de truc au noir, dans la rue, comme ça, on s'est mis de côté. Et il va, donc, vous avez vérifié que c'est pas un aîné. On dit non, il est devenu livide. Livide. Parce que s'il égorgeait, il transgressait un interdit de carette. Égorger un animal aîné, un mouton ou une vache, ou etc., aîné, c'est un issour carette, parce que tu as fait un sacrifice à l'extérieur du temple. On a vérifié là-bas au kibbutz, là, c'est bon, ils ont des registres, c'est pas aîné, hop, et on l'a égorgé, on a fait des cadeaux. D'accord ? Pourquoi je te raconte ça ? Il y a une réalité maintenant. Si tu égorge au temple, t'as fait une mitzvah énorme. Hors de l'endroit que Dieu a dit, c'est pas grand-chose, hein, c'est 50 amas sur 50 amas, un petit machin de rien du tout, c'est déjà plus rien. Donc on fait pas ce qu'on veut comme on veut. Mais quand on fait cet acte-là comme Dieu a demandé, Dieu est témoin, c'est lui qui nous a témoin. Bon, il faut déjà savoir que la Torah est d'origine divine. Une fois qu'on le sait, on sait que cet acte-là, il a cette faculté. Alors j'ai deux questions. Oui, Jonathan.
Prends les actes qui paraissent si stupides.
Non, mais j'imagine que, ok, tout le monde qui dénigre n'a rien à faire, parce que ce sont des gens idiots. Quelqu'un qui comprend, qui peut vérifier que la Torah est d'origine divine, et c'est aisé de faire aujourd'hui, il peut comprendre que les choses ont, comme je dis, chaque objet est un véhicule d'une charge spirituelle. Et maintenant, il y a aussi le côté végétal, il y a besoin, et pourquoi ça, et pourquoi c'est... D'accord, on te dit, on est un autre intelligent, et où la vérité, c'est que ça vient au niveau de leur réalité, au niveau de leur nom. Comme j'explique auparavant, vu que le monde est créé par la langue de Dieu, c'est la langue sainte, d'accord. Dans chacun de ces mots, tu as des valeurs. Tu peux voir par les valeurs ce que explique la mystique juive, d'ailleurs. C'est, voilà, l'oulav, c'est cette chose correspond aux sept sphères. D'accord. Les trois myrtes, ça correspond à Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Après, tu as Yosef et Aaron, c'est les deux Aravot, c'est comme Netzach et Hod. Le loulav, c'est Yesod, et le Etrog, c'est Malchut. Donc, voilà, le Kabbalah. Ça correspond à des choses. Et pourquoi? Parce que dans leur nom aussi, tu prends le mot Etrog, tu le mets en Gematria, matatata, ça correspond à ces mots, c'est à ces noms de Dieu, tatatata. On t'explique, la mystique juive va t'expliquer quelle est la portée de chacun de ces actes, où ça agit, comment. Mais dans la Kabbalah, elle te dit maintenant, elle te dit à quelle réalité spirituelle correspond cet objet. Alors comment tu vas agir maintenant sur la réalité spirituelle sans passer par l'objet? C'est impossible. C'est comme si maintenant tu vas te marier avec ta femme sans son corps. Il y a elle. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
C'est Hachem lui-même qui décide quelle réalité spirituelle se rattache à quel objet.
Ouais.
Donc s'il a choisi ça, lui, entre guillemets, il s'en fout. Parce que, donc c'est que nous, on doit y trouver un espèce de sens. Pourquoi cet objet-là? Pourquoi ce sacrifice-là? Et pourquoi, comment, pour...
Non, Dieu a mis cette réalité spirituelle dans cet objet. Non, oui, donc il veut donc qu'on le serve maintenant. Il aurait pu vouloir autrement.
Soit une banane ou un étrange,
lui aurait pu vouloir autrement. Aurait pu vouloir. Maintenant qu'il a voulu ainsi...
Si il a voulu ainsi, c'est que nous, on doit comprendre quelque chose, quelque part. C'est ça la question, en fait. C'est quel intérêt pour nous? Où est la réalité dans un corban? Qu'est-ce que nous, on en comprend? Parce que lui, de toute façon, ça ne change rien. Lui, ce qu'il aime, c'est la minutie du truc. Qu'on fasse attention, qu'on fasse ce que lui désire.
Non. C'est pas que ça. Pourquoi Dieu a voulu que ce soit une part et une vache et pas un ours, d'accord? Bon, alors, c'est la question du pourquoi de Dieu. Il a voulu. Bon. Il y a certainement au niveau Maïmonide, lui, va donner une explication beaucoup plus rationnelle aux choses. C'est-à-dire, quand tu as le sacrifice, vous pensez que c'est à ta place, etc., c'est toi qui aurais dû être en train d'être brûlé, en train d'être égorgé. C'est vrai, toutes ces choses-là sont vraies. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi la vache et pourquoi pas un autre. Pour arriver à la vraie réalité, on est obligé de passer par la mystique juive qui va t'expliquer que cet animal-là, tel qu'il a été créé, tel qu'est son nom, et son nom exprime son essence, dans son essence, il correspond à cette réalité spirituelle.
Et
c'est Shem qui a décidé. Mais une fois qu'il a décidé que c'est comme ça, nous on vit dans ce monde. Si ça avait été un ours, on m'aurait dit pourquoi pas la vache? D'accord. Alors une fois qu'il a fait la vache, il a voulu bon, qu'il a fait la vache, terminé. La vache est une réalité spirituelle qui, elle, peut faire ça et pas l'ours. Tu me demandes, mais pourquoi la vache a cette réalité spirituelle et pas l'ours? Je répondrai parce que Dieu a voulu ainsi. Pourquoi Dieu a voulu ainsi? Parce qu'il a voulu. Ça agit. Comme je te dis maintenant, quelqu'un il veut se rapprocher de Dieu sans la matzah à Pessah, sans le chauffard, sans la prière, sans rien. Ça ne marchera pas. Parce que ces trucs-là, ce sont des échelles qui fonctionnent. Quand Machiav reviendra, j'imagine qu'on pourra faire la Torah d'une façon différente. On doit faire la Torah, il y aura ses mitzvot aussi. J'ai déjà raconté souvent que c'est marqué quand Machiav reviendra. Au bout d'un moment, pas tout de suite. Tous les jours, aujourd'hui, le monde est séparé en trois parties. En tamé, impur, en profane, c'est ni impur ni pur, et en saint. C'est ni saint ni impur. Profane, c'est chol, c'est pas... Tu manges une pomme, c'est permis. Il y a le mitzvah de manger une pomme? Non. D'accord? À un moment, quand Machiav arrive, tout le mal est éradiqué. Il n'y a plus de mal. Il n'y a que profane et saint. Donc le moment où il n'y aura plus de profane, il n'y aura que saint. Il n'y aura que saint. C'est-à-dire que tous les jours seront saints. Dimanche, Sechet, ça sera Pessah. Lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, ça sera Shavuot. Mercredi, ça sera Rosh Chodesh, je ne me trompe pas. Jeudi, ça sera Sukkot. Et vendredi, ça sera... Qu'est-ce qu'il me manque encore dans le tas? Shmini Atzeret. D'accord? Il restera deux fêtes, Purim et Yom Kippour, qui sont à un niveau encore plus haut, qui eux resteront une fois par année. Alors quoi? Tous les jours on va faire la matzah? Et tous les lundis on va faire comme ça avec le... Non! Il y aura une certaine... La même lumière qui a sous code Pessah Sera, elle viendra tous ces jours-là, et nous on aura une façon d'accéder au tikkun de cette lumière, de recevoir cette lumière divine, de façon XYZ, que le Machiav nous indiquera. Mais la Torah restera. Elle restera dans une autre configuration. Lorsque le monde y change, alors la configuration de la façon d'amener la lumière divine des 613 lumières divines qui correspondent aux 613 mitzvot, elle se fait différemment. C'est bon, Baruch Adonai.